Cher Père Abbé Marc, liebe Väter und Brüder, Jünger des heiligen Benedikt und des heiligen Bernhard, chers fidèles, chers Sœurs et Frères, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, und lasst euch als lebendige Steine auferbauen zu einem geistigen Tempel, zu einem geistigen Haus. Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante. Vous aussi soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Der lebendige Stein, das ist Christus, und wir, die lebendigen Steine, sollen also zu einem geistigen Haus auferbaut werden. Da ist die Versuchung, ja das Risiko groß, dass wir, ohne es zu merken, auf einmal über dem Boden schweben und den Kontakt zur Erde verlieren, in geistige Höhen entschwinden. Deshalb möchte ich, bevor ich dann etwas sage zu den lebendigen Steinen und zum geistigen Haus, erst einmal von den toten Steinen reden. Einen solchen toten Stein habe ich hier nach Altenrief mitgebracht. Hier. Das ist ein toter, kalter Stein. Das ist nicht irgendein Stein, sondern dieser Stein hat eine Geschichte und eine Herkunft. Dieser Stein kommt aus dem Kanton Obwalden. Und zwar habe ich ihn am Abend des 24. September 2015 aus dem Bachbett der Melchaa herausgeholt. Ein paar Meter unterhalb von Ranft, von der Einsiedelei des Bruder Klaus. Cette Pierre, que j'ai amené à Hauterive, elle a une histoire, elle a son poids, une origine. Et pour moi, cette pierre, ce caillou, est riche en souvenirs. La veille du 25 septembre 2015, c'était la fête de Saint-Nicolas-de-Flux, j'ai trouvé cette pierre dans la petite rivière qui coule sous l'ermitage de Saint-Nicolas-de-Flux au Ranft. Et je l'ai présenté aux fidèles lors de l'homélie que j'ai prononcée à l'église de Saxon le 25 septembre suivant. Et j'ai fait allusion par cette pierre, par ce caillou, un épisode légendaire de la vie de Bruder Klaus. On dit que durant les 20 ans de sa vie d'ermite, il aurait utilisé comme coussin un caillou. En effet, quand vous visiterez sa cellule au Ranft, vous verrez que posé sur le banc de bois qui lui servait de lit, il y a toujours une pierre pour rappeler cette ascèse extraordinaire. Ce n'est pas la pierre qui était sur le banc, je suis descendu vers la rivière pour en trouver une autre. Alors, la pierre, c'est du réel, hein? C'est froid. C'est du matériel qui semble sans vie, mort, mais qui en même temps renferme toute la vie. Car elle nous raconte une histoire lente, longue de dizaines et de centaines de milliers d'années. Elle témoigne des vicissitudes des temps. Elle reflète l'évolution silencieuse de la nature. Elle porte en soi toutes les étapes de la création. Elle englobe l'univers. C'est beau de tenir en main l'univers dans une pierre. Et cela vaut la peine de faire une petite méditation sur la pierre en prenant un caillou entre vos mains. Contemplez-le et méditez là-dessus. La pierre, est-ce qu'elle représente la mort ou plutôt la vie et ses mystères insondables? La pierre, matière morte, et en même temps, signe expressif de la vie qui, pour le patriarche Jacob, et 3000 ans plus tard, pour l'ermite Saint-Nicolas, a servi de coussin. Il me semble que cette pierre sur laquelle ils ont posé leur tête a inspiré leurs rêves, leurs visions, les a ouverts aux dimensions célestes, au mystère du ciel. Être en contact avec l'univers, toucher le réel de notre terre, le matériel de la nature, c'est essentiel pour creuser les profondeurs de notre âme, pour éveiller les visions dont Saint-Nicolas était porteur, comme ce fut avant lui le cas du patriarche Jacob. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête, et c'est là qu'il dormit. Il eut un songe, le songe de Jacob. Quelle merveille! Très familière à nous autres moines qui suivons la règle Saint-Benoît et son enseignement sur l'humilité. Vous connaissez tous le chapitre 7 de la règle qui commence justement en évoquant le songe de Jacob. Jacob sortit de son sommeil et s'écria vraiment, « Le Seigneur est dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Saisi de crainte, il disait que ce lieu est redoutable. Il est réellement la maison de Dieu, la porte du ciel. Cette pierre humble qui me rend service pour cette homélie. Avec tout son poids physique, sa passivité muette, avec les traces des millénaires inscrites dans sa lourdeur, elle porte en elle un message formidable. Maison de Dieu, porte du ciel. Et nous autres, nous serions donc des pierres vivantes, appelés à construire un temple spirituel. Nous, avec nos 50, 60, 80, peut-être 90 ans d'âge, à côté de cette pierre millénaire, nous, les mortels, nous passons, tandis que les pierres, elles restent, pour rendre service. Nous, les pierres vivantes, nous devons montrer un grand respect face aux pierres mortes, soi-disant mortes, et surtout aux pierres qu'on utilise pour construire la maison de Dieu sur place, dans le réel de l'espace et du temps. Dans votre chronique de l'an 2017, j'ai lu le passage suivant. Concernant la restauration de notre Église, nous pouvons signaler un avancement appréciable de la réflexion. En collaboration avec l'architecte M. Jean-Marie Dutilleul, elle commence à porter du fruit, mobilisant un consensus communautaire de plus en plus large. Ce progrès est dû aussi à la possibilité de donner de la chair aux idées qui se sont développées durant ces deux dernières années, en visionnant en trois dimensions ce que l'espace de notre Église pourrait devenir. Aïe, c'est beau! Ce que l'espace de notre Église pourrait devenir, l'Église en train de devenir, wie der Kirchenraum in Zukunft aussehen könnte, c'est passionnant. Vous vous apprêtez à rénover votre église abbatiale. Quelle belle tâche, mais quel défi énorme, quel projet fascinant que de construire de pierres mortes la maison du Dieu vivant, ce lieu redoutable où vous, les moines, vous vous retrouvez régulièrement jour et nuit pour chanter la louange de Dieu créateur au nom de toute l'Église, de toute l'humanité, de tout l'univers, y compris les pierres mortes qui vous entourent, qui vous donnent un abri sûr. Cet endroit concret unique, aux coordonnées précises, sert et servira de porte du ciel, non seulement pour votre communauté, mais aussi pour les fidèles qui veulent que la vie de l'Église continue, bien qu'elle semble de plus en plus fragile, mise à l'écart. Porte du ciel aussi pour d'innombrables visiteurs curieux qui reçoivent, grâce à votre accueil, une idée vague peut-être, mais pourtant idée forte et consolatrice de ce que le mot énigmatique « ciel » continue à nous transmettre en dépit de la sécularisation qui affecte tous les coins de notre société. Porte du ciel, aussi pour tant de touristes qui ne savent presque plus rien de la foi chrétienne, de son histoire à travers les siècles, de ses trésors culturels, artistiques, spirituels. À Maria Stein, je rencontre souvent dans notre belle église des gens qui expriment leur admiration pour la basilique, espace qui, loin de les laisser indifférents, les ravit, les émeut, les touche. C'est effectivement un message de vie à travers les pierres mortes. Un message bâti et transmis par nos ancêtres qui réussit à rejoindre nos contemporains. Une jeune femme ukrainienne qui avait participé à la rencontre Thésée-Baal et qui était présente lors d'un échange en groupe dans notre église à Maria Stein m'a envoyé le 6 janvier un courriel disant, elle l'a écrit en anglais, je traduis, « Merci beaucoup pour pouvoir découvrir votre très belle église. Merci pour votre très belle messe du 1er janvier. Et surtout, un grand merci pour vos prières pour l'Ukraine et pour la paix dans mon pays. » C'est pourquoi je suis heureux de lire dans votre chronique de votre expérience communautaire. Vous signalez en effet un avancement appréciable de la réflexion mobilisant un consensus communautaire de plus en plus large. En vous occupant sérieusement et communautairement des pierres mortes, aidés par les spécialistes qui mettent à votre disposition leurs capacités et leur bonne volonté, vous découvrez la réalité des pierres vivantes, la réalité d'une Église que vous êtes vous-même, peuple de Dieu en miniature, en transformation permanente, en train de se renouveler à travers des moments de soucis et de douleur, d'embarras et de blocage, mais aussi d'encouragement, d'un départ vers l'infini qui vous surprendra. Comme l'a dit le prieur fondateur de Thésée, Roger Schütz, vous êtes appelé à vivre l'inespéré, à avancer dans les traces de Saint Bernard et de vos pères cisterciens qui bâtissaient leurs églises patiemment, pierre sur pierre, sur un modèle visionnaire proposé par l'Évangile. Vous avez entendu Jésus, mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Prenez en main les pierres mortes pour la construction et la rénovation de la maison de Dieu, de la porte du ciel. Et suivez l'invitation de Saint Pierre qui porte la pierre jusque dans son nom. Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante, et goûtez combien le Seigneur est bon, car il n'est pas seulement pierre vivante, mais aussi le corps livré pour nous, le pain rompu pour toute l'Église et pour le salut du monde. Ainsi soit-il.